Et on retrouve tout de suite Kabbalat Shabbat, une émission qui vous est présentée par Bernard Abouaf.
Bonsoir à tous, Bernard Abouaf au micro. On se retrouve comme chaque vendredi soir pour Kabbalat Shabbat, une grande émission de Torah et de pensée juive. On a d'ailleurs le plaisir, pendant encore une ou deux semaines peut-être, d'être rediffusé le samedi soir. Donc j'en profite pour ceux qui nous écoutent le samedi pour dire Shavuot Tov. Mais nous sommes en ligne pour commencer notre réflexion avec Rav Eli Lemel. Bonsoir Rav Eli Lemel et Shabbat Shalom.
Bonsoir et Shabbat Shalom.
Rav Eli Lemel, avec vous, comme chaque semaine, on voit, on survole la paracha, ce passage de la Torah qu'on lit dans nos communautés. Et donc là, on arrive avec un moment un peu triste et à la fois toujours plein de saveur parce qu'on sait qu'on redémarre vers autre chose, vers la fin du livre Shemot. C'est Pekoudé. Et c'est la fin du livre qu'on appelle aussi l'exil en français, c'est peut-être pas le bon mot, mais Pekoudé, on pourrait dire, je vais être très populaire, avec un langage populaire, oui, les bons comptes font les bons amis. Alors, qu'est-ce que nous dit la Torah à ce sujet ?
Exact. Nous sommes en train de terminer donc, le livre de Shemot, comme vous le soulignez. Et puis aussi, dans ce livre de Shemot, eh bien, il se conclut par ces parachutes, Vayakel, Pekoudé, Torouma, Tetzavé, enfin, ces textes dans lesquels on nous a parlé essentiellement de la construction du Mishkan, du sanctuaire dans le désert, qui d'ailleurs préfigure ce que sera par la suite le Beth Hamikdash, le temple de Jérusalem. Et la Torah nous a décrit de manière extrêmement précise la construction, la réalisation, les détails de tout ce qui va être créé pour ce Mishkan. Et puis là, ben on arrive dans la dernière paracha Pekoudé, et puis on est dans le cabinet de l'expert comptable. C'est-à-dire qu'on a maintenant le détail exact de ce qui a été donné par le peuple d'Israël, comment ça a été utilisé, de quelle manière. Véritablement, un rapport d'exécution, on a l'impression que c'est la Cour des comptes qui est en train de vérifier exactement à quoi ont été utilisés tout l'argent qui a été donné, l'or, le cuivre, enfin toutes ces choses. Il y a un détail quand même, mais un détail de taille, j'ai envie de dire, si vous me permettez l'expression, c'est que le maître d'œuvre, le responsable, c'est quand même quelqu'un qui s'appelle Moshe Rabbeinu. C'est Moïse, notre maître, qui a à la fois initié cette collecte, qui en même temps a géré. Alors, il a à ses côtés Betzalel, Ben Oliav, Achisamar, et il est quand même avec des personnages aussi de tout premier plan. Rappelons que Betzalel, comme Aholiav d'ailleurs, Ben Achisamar, eh bien, sont des personnages d'une intégrité extraordinaire. Betzalel, c'est Betzelkel, celui qui est à l'ombre de Dieu. Et pourtant, on est dans les comptes, dans les décomptes, dans les détails. Et on va voir même qu'à un moment, Moshe va rechercher l'affectation exacte d'une certaine quantité d'argent dont il ne se rappelait plus véritablement sur quoi on l'avait utilisé. Enfin, c'est extraordinaire. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien, parce que tout simplement, il y a un principe qui est le suivant, « Vi'item nekiim me'achem ou mi'israël », d'être propre devant Dieu, mais devant les enfants d'Israël. Traduction, nous n'avons pas le droit, nous, de soupçonner l'autre à un moment d'avoir peut-être mal gérer les fonds, mais lui a l'obligation de nous le prouver et de nous dire « mais je vous rends des comptes et c'est normal ». Et il y a ici une leçon qui est au fond extrêmement intéressante, c'est ce qui fait que la relation va être bonne entre un dirigeant et ceux dont il a la responsabilité, eh bien c'est que ceux-ci sont rassurés sur la probité de celui qui au quotidien les gère. Et celui-ci, eh bien, doit trouver normal et évident de leur donner des comptes dans les détails. Le « faites-moi confiance », je ne comprends pas, mais attendez, c'est Moshe quand même. C'est Moshe, c'est pas n'importe qui. Aujourd'hui, imaginez qu'on fasse la même chose, les gens diraient « mais comment osez-vous soupçonner, imaginez que… » Non, on ne soupçonne personne, il n'y a aucun problème. Mais c'est normal de faire comme cela. On va essayer d'aller un tout petit peu plus loin et au fond de réfléchir sur ce qui va faire que parfois on aura difficile à trouver cela de manière évidente. De manière évidente parce que voilà, on ne comprend pas. La Torah nous dit qu'au fond, le regard que tu portes sur toi, c'est ton regard. Mais tu n'as jamais la certitude de savoir quel est le regard que l'autre peut porter sur toi et tu as besoin de le rassurer. Tu as besoin de lui, d'être Magdim refoua la maca, comme on dit, c'est-à-dire de donner le médicament avant que la maladie n'arrive. C'est-à-dire de faire en telle sorte que ce que l'autre pourrait éventuellement se poser comme question, il ne puisse même pas se les poser. Parce que quand vous vous posez des questions, déjà il y a quelque chose qui rentre. Je n'ai pas envie de dire que c'est l'ère du soupçon. D'ailleurs, vous savez que dans le Beth Amikdash, dans le temple, les Kohanim, les prêtres, eh bien, avaient des vêtements, mais ces vêtements avaient une particularité, c'est qu'ils n'avaient pas de poche. Il n'y avait pas de poche. Pourquoi ? Parce que, eh bien, il fallait que le peuple ait une forme de certitude absolue que le Kohen ne puisse d'une quelconque manière imaginer prendre quelque chose qui appartient au temple. Pourtant, les Kohanim sont là face au Créateur de l'univers, ils sont là pour véritablement faire le service divin, mais néanmoins, eh bien, la Torah nous dit « Vitem nekim hachem omi Israël », il faut faire en telle sorte que l'autre ne puisse même pas se poser de questions, lui donner les moyens d'être rassuré. Alors, pour cela, évidemment, il faut mettre de côté parfois son amour-propre. Il faut savoir faire preuve de ce que j'appellerais une notion de vitour, c'est-à-dire de renoncer à quoi ? À la manière dont on pense que les choses devraient être. Eh bien non, moi je pense que normalement j'ai pas de raison de justifier, j'ai pas de raison de présenter les comptes. Pourquoi je le ferais ? Et je voudrais vous raconter à ce propos une histoire qui est rapportée par le Zohar, je crois, dans Parashat justement Vayechel ou Pekoudé. Et le Zohar nous rapporte l'histoire de ce maître qui est là et qui est sur les murailles, on va dire, de la ville de Lod, en Israël. Et ce maître, à un moment, voit au loin une personne qui est sur une colline et puis qui va sans doute se poser pour se reposer sur une forme comme ça de petit promontoire rocheux qui est sur la colline d'en face. Bon, il le voit, il l'observe et cet homme se couche et puis il s'endort. Et le Rav, à ce moment-là, voit arriver un serpent qui semble être venimeux. Il ne peut intervenir, il est trop loin. Et quelques secondes avant que celui-ci pique cet homme qui est endormi, eh bien une belette, une fouine, que sais-je, un animal arrive et fait en telle sorte que ce serpent ne puisse pas piquer cet homme. Cet homme se réveille quelques minutes après, regarde bien sûr avec horreur ce serpent qui a failli le mordre, se lève et part de l'endroit sur lequel il était posé, et puis ce promontoire rocheux, à peine est-il sorti, eh bien s'écroule. Alors, ce maître, voyant cela, évidemment, se dit « il faut que je comprenne quelque chose, il se passe quelque chose ici ». Et il se déplace, va jusqu'à cet homme et lui dit « tu as constaté que tu viens d'échapper par deux fois une mort certaine, d'après toi pourquoi ? Enfin, est-ce que j'ai besoin de savoir ?» Cet homme réfléchit et puis au bout d'un moment, on dit « bon ben, si Dieu m'a fait ces deux miracles, ben ça serait peut-être pour cela ». Et lui dit que tout simplement, eh bien… il ne va jamais se coucher le soir sans avoir fait en telle sorte que s'il y avait une dispute avec quelqu'un, celle-ci soit apaisée. Il lui explique qu'au fond, bien, lui, dans la vie, il a pris à une chose. Il a pris une chose, pardonnez-moi, c'est de savoir renoncer. Savoir se mettre de côté, ne pas chercher sans arrêt à dire « eh bien non, moi j'ai raison, et puisque j'ai raison, c'est comme ça que ça doit être ». Il va plus loin d'ailleurs, il dit « et si je vois qu'il y a une tension entre nous, eh bien je vais peut-être moi aller vers cette autre personne, lui offrir des cadeaux ». Pour que les choses s'apaisent. Alors, cette histoire, elle nous apprend beaucoup de choses, mais elle s'inscrit un petit peu dans cette idée que nous sommes en train de développer ensemble. Au fond, cet homme s'est renoncé. Renoncé à des choses qu'il semblait être pour lui normales et évidentes. Pourquoi je devrais renoncer ? Pourquoi je devrais donner des comptes ? Pourquoi je devrais… je ne vois pas où est le problème. C'est possible, mais ce n'est pas grave. C'est possible, mais ce n'est pas grave, parce que si pour l'autre c'est important, alors au fond, pourquoi ne pas le faire ? Et pour le peuple d'Israël, c'est important. Au-delà de ça, évidemment. Au-delà de ça, et c'est un enseignement qui est du domaine de l'évidence, mais comme on a l'habitude de dire, ça va sans le dire, mais il vaut mieux le dire quand même. Eh bien, c'est cette notion de probité que l'on attend de ceux qui dirigent le peuple juif et qu'ils ne proclament pas juste celle-ci, mais qu'ils apportent des preuves. Et oui, apporter des preuves, c'est-à-dire on ne rend pas des comptes, on propose les comptes. Ils doivent être accessibles et c'est quelque chose d'ultra concret, ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que dans tout univers communautaire dans lequel nous avons la responsabilité de l'argent qui nous est confié, eh bien, il est normal et évident que nous puissions, dans les détails, expliquer le pourquoi du comment des choses et surtout avoir une réflexion. Et j'ai eu la chance d'entendre et d'apprendre cela de mes maîtres qui m'ont toujours dit « Essaye de t'imaginer que c'est la communauté qui est présente, que ce sont les donateurs qui sont présents au moment où tu vas dépenser l'argent. Est-ce que tu l'aurais fait ?» Et si tu as un doute, si tu aurais fait cette dépense ou cette chose de telle ou telle manière, alors c'est que sans doute il y a un problème. C'est quelque chose de pas simple. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai entendu un jour d'un autre maître, eh bien, dans le peuple juif, on est très vigilant et c'est une bonne chose sur tout ce qui a trait à l'univers des relations interdites, sur tout ce qui a trait à l'univers de la cacheroute. Et cette vigilance est importante, évidemment, parce que ce sont des choses qui sont fondamentales, mais on cherche souvent toutes les dimensions permissives possibles dans ce qui est du domaine de l'argent. Intéressant de voir ce grand écart que l'on peut faire, où l'on va rechercher dans le domaine de la nourriture, telle et telle nourriture, la plus cachère qu'il soit, et pourquoi pas, c'est une bonne chose. Mais en même temps, lorsqu'il s'agit d'argent, de trouver toutes les permissions possibles, toutes les manières de dire, mais au fond, ça, c'est pas véritablement un problème. C'est là où peut-être il y a ce que j'appellerais des zones de test, qui sont extrêmement importantes pour chacune et chacun d'entre nous. Et cette paracha vient bien nous l'apprendre, et Moshe, notre maître, homme au-dessus de tout soupçon, évidemment, et pas juste en théorie, mais en pratique, eh bien, c'est celui qui nous donne cet exemple. Si lui, en effet, a trouvé normal et évident de le faire, alors pour nous aussi, ça doit l'être. Sachons, là où nous sommes chacun d'entre nous, être dignes de la confiance des autres dans le domaine pécunier, dans tous les autres domaines, ne pas avoir peur de répondre à ce besoin d'être rassuré et quelque part s'inscrire alors dans ce qui est l'univers du Mishkan, du Beth Amikdash, un lieu dans lequel eh bien, toutes les dimensions qui constituent l'individu doivent tendre vers l'excellence.
Le président d'Ukraine, quand on lui a mis une photo dans son bureau de lui, puisque le président, il a dit « Ne mettez pas une photo de moi, mettez une photo de mes enfants ». Et je vous conseille de faire pareil. À chaque fois qu'on vous propose une photo de vous, vous mettez une photo de vos enfants et vous la regardez avant de prendre une décision. Alors excusez-moi cette incursion dans l'actualité. Après, c'est très beau de voir Torah qu'on vient d'entendre, mais je me disais que ça illustrait pas mal ce que vous disiez, même si évidemment on n'est pas au niveau de nos chachamim, sachant par ailleurs que Moshe Rabbeinu, Maaseh Avot Siman Labanim, peut-être que Moshe Rabbeinu, il n'a aucun doute sur ce qu'il a fait, il veut nous montrer comment on fait en fait.
C'est sûr, mais je pense que tel qu'il ressort des commentateurs, que pour Moshe, c'était du domaine de l'évidence. C'est-à-dire, mais c'est comme ça que ça doit être. Et parce que c'est ce qui permet à l'individu d'être en vigilance en permanence, parce que c'est normal à un moment de rendre des comptes, c'est normal à un moment de donner des réponses aux questions que les autres ne nous posent pas, mais qu'ils sont totalement en droit de nous poser.
Légitime. Rav Eli Lemel, je vous remercie. Je vous souhaite Shabbat Shalom et un beau mois de Hadar qui s'ouvre devant nous avec beaucoup de joie.
Amen, amen, Chodesh Tov et Shabbat Shalom.
On part pour Jérusalem où l'on retrouve le Rav Mordechai Biton. Bonsoir Rav Mordechai, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, Shabbat Alechem et Shavuot Tov aussi pour ceux qui nous écoutent.
Et Shavuot Tov pour ceux qui nous écoutent le samedi soir, absolument, en rediffusion. C'est pas un vain mot, Shalom, aujourd'hui, et c'est pas un hasard si la religion juive l'a choisi comme étant l'un de ses mots les plus emblématiques. Et vous avez d'ailleurs envie, vous, ce soir, Rav Mordechai Biton à Jérusalem, de faire une forme de pause, on va dire, dans notre réflexion habituelle sur la paracha qu'on a dans notre émission Kabbalat Shabbat pour évoquer un peu l'actualité, mais évidemment avec une vision toraïque des choses et avec les enseignements que vous inspire cette situation proprement hallucinante. Là,
Absolument, absolument.
Vraiment.
Je pense que c'est important de le faire aussi dans le théâtre de notre émission, pour que les gens comprennent à quel point la Torah elle est vivante et elle parle de tout, elle s'intéresse à tout et qu'on vit dans le monde. On est dans le monde. On vit dans un monde et dans un contexte. Alors il y a dans cette affaire quelque chose qui est littéralement hallucinant, comme vous le dites, c'est qu'on a un très très bon ami dans le monde, qui est un Cosaque, il s'appelle Poutine. D'accord. Alors il nous tient par la main, il nous dit Tovarich, moi j'aime beaucoup les juifs, donc il nous tient la main très fort. Et nous on baisse un peu la tête comme ça, on dit mais c'est qui les cadavres là à côté? Oh, c'est mes ennemis. Oui, d'accord, mais vous êtes mes amis, vous? Ah oui, bien sûr, monsieur Poutine, on est vos amis, bien entendu. Vous pouvez me lâcher la main? Je vous ai dit que vous êtes mes amis, je ne vous lâche pas la main. Ah, d'accord, je peux me moucher? Attention là, vous ne moquez pas de moi. Ça veut dire. On a un ami dans le monde qui est un tyran, qui est un type qui peut nous conduire, Chas v'Shalom, sur la voie d'une guerre mondiale. Et il y a là quelque chose d'absolument, littéralement hallucinant. Alors de l'autre côté, on a un pays, l'Ukraine, qui est un pays qui évoque des très très mauvais souvenirs dans la mémoire juive. C'est les massacres de 1648-1649, c'est la collaboration active des Ukrainiens pendant l'époque de la Shoah, c'est un antisémitisme qui est toujours présent, et aujourd'hui, une autre réalité avec un président juif et un peuple qui accueille avec beaucoup de ferveur et beaucoup de sympathie à la fois sa communauté juive et en même temps Israël. Alors, c'est vrai que cette situation-là, du point de vue du judaïsme et du point de vue du peuple juif, elle appelle des réflexions. Bon, d'abord, une première réflexion, on peut continuer à prier et à souhaiter que ce conflit se résolve, si tant est que ce soit possible, avec des négociations, si tant est que ce soit possible, bien entendu, parce que ça ne fait pas partie des objectifs de Poutine de négocier. Poutine, il est en train de renouer avec les vieilles doctrines tsaristes, les empires de l'Empire russe, et il considère que l'Ukraine, c'est un pays qui lui appartient. Et la manière dont il s'est lancé dans cette aventure, c'est tout simplement à la manière de ce qu'on appelle en hébreu un Rodan, c'est-à-dire un tyran qui essaye d'annexer des pays. Et tout le monde sait très bien que si on se tait aujourd'hui sur l'Ukraine, on peut se retrouver avec l'Estonie, la Lituanie, et donc derrière, cette fois-ci, avec une nécessité pour l'Occident d'intervenir et des risques de guerre mondiale. Donc je pense qu'en tant qu'être humain, d'abord, mais spécialement en tant que, je vous l'avais dit, on est porteur du shalom, d'abord, on doit prier pour que cette histoire s'arrête. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on a un devoir de solidarité aussi avec les Juifs ukrainiens, évidemment, et bientôt aussi avec les Juifs russes, à nouveau. Parce que finalement, la situation dans laquelle se trouvent ces communautés sont des situations paradoxales. Je voudrais juste rappeler une chose. Avant la Shoah, la communauté juive lituanienne était une communauté qui avait toute sa place. Le rabbi de Ponovitch s'est retrouvé coincé en Israël en 1941, alors qu'il était parti pour le compte du gouvernement indépendant lituanien, en mission. Les Juifs étaient très bien, ils n'étaient pas très bien intégrés, mais il y avait des mouvements shaoulistes, des mouvements d'extrême droite, mais la population lituanienne, c'était une population qui voyait d'un bon œil ses voisins juifs. Et d'un seul coup, au moment où les nazis sont rentrés, ben, tout ça s'est retourné avec les massacres qu'on connaît. Alors, dans la mémoire juive, la relation du judaïsme et du peuple juif et des communautés juives avec ces populations qui nous entourent, elle est ambivalente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a de l'amitié, il y a de la considération, il y a même de la fascination. Il y a plusieurs témoignages qui montrent que là où il y a des juifs, eh bien, les non-juifs ukrainiens qui fuient essayent de se rapprocher des Beth Knesset, des synagogues et autres, etc., parce qu'ils savent que là-bas, ils trouveront à manger, ils trouveront un accueil. Et j'ai entendu des témoignages de rabbanim et autres, etc., dire, bon, de toute façon, on accepte tout le monde. Donc, tout le monde sait que le juif, il est généreux, que le juif, il donne, que le juif, il est solidaire, évidemment, avec les juifs, et qu'il va aussi donner à tout le monde. C'est un très grand kiddush Hashem qui se produit sous nos yeux avec des témoignages vivants qui ont été donnés par plusieurs personnes. Mais d'un autre côté, on ne peut pas s'empêcher ici de voir aussi un autre paradoxe. Le Rav Lo, ce matin, s'est exprimé sur Radio Kol Chai, radio israélienne, en disant que le parallèle qui avait été fait par certains avec la Shoah au sujet du massacre de Babi Yar, lorsque les Russes ont tiré sur le site de Babi Yar, il a dit vraiment « laissez la Shoah tranquille, arrêtez d'invoquer la Shoah à chaque fois et de faire des références à la Shoah ». Je pense que s'il y a ici une seule, pas référence, mais en tout cas un point qui est un point de ressemblance, pas avec la Shoah, mais avec la période, c'est cette ambiguïté de la place du juif dans ces contrées. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une espèce de fascination, mais en même temps, on ne peut pas s'empêcher de penser et de constater que derrière cette fascination, il peut y avoir beaucoup de jalousie, et qu'il peut y avoir même une certaine haine, et donc un danger. D'autre part, et même pour les Français aussi, c'est intéressant. Ce président ukrainien qui est juif, et qui est donc à tenu tête à Poutine, qui est un héros aujourd'hui pour son peuple, peut demain être utilisé par la propagande russe comme quelqu'un qui a emmené finalement son peuple vers la guerre. On a en France aujourd'hui un monsieur qui veut se présenter à la présidentielle, qui est monsieur Zemmour. Mignan, Lignan, Beautoignan. C'est la même chose aujourd'hui. On trouve des juifs aujourd'hui dans des situations paradoxales. Pour freiner l'invasion, entre guillemets, musulmane, entre guillemets, on va mettre en avant, pour le compte de l'extrême droite, un juif qui reprend à son compte des thèmes qui sont des thèmes de l'extrême droite, et qui va en quelque sorte permettre de sauver la France, entre guillemets. Toutes ces situations-là, du point de vue du judaïsme, elles sont très intéressantes parce que ce sont des juifs paradoxaux, dans des situations paradoxales, qui font des choses que d'autres auraient dû faire. Et pourquoi est-ce que le juif se retrouve là-bas? Pourquoi est-ce que le juif est ami de Poutine? Pourquoi Amine est ami des juifs? Pourquoi le président de l'Ukraine est juif? Pourquoi il y a un candidat d'extrême droite juif en France? Vous voyez que ces mots complètement absurdes. La réponse à ces trois questions, elle tient dans le mot galoute, dans le mot exil. Le juif, il est dans un exil du Da'at. L'exil dans lequel on se trouve aujourd'hui, c'est un exil du Da'at. On dirait en français un exil du sens. Et donc, on retrouve des juifs dans des positions paradoxales et insensées. Et moi, je crois que notre devoir, il est de rétablir les choses et de donner du sens aux choses. Donc, premièrement, d'abord, de prier pour le shalom, même si ça nous paraît aujourd'hui un peu désespéré, mais il faut prier pour le shalom, parce qu'on a tous intérêt à ce que tout ça se termine le moins tragiquement possible. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, prier pour les communautés juives. Troisièmement, soutenir ces rabbanim qui, à la fois, font du chesed, mais en même temps diffusent la Torah dans tous ces pays, parce que finalement, c'est la meilleure manière de sortir le juif de l'exil du Da'at. Partout où on diffuse de la Torah, le juif, il revient à ses sources, et il revient surtout à sa vraie place, qui est la place du Beit HaMidrash. Il va être, à la fois, d'une certaine manière, retiré politiquement du monde, mais attentif à ses bruits. Et il va intervenir comme il doit intervenir. C'est-à-dire qu'il va être un pourvoyeur de chesed, et un pourvoyeur de Torah, et un pourvoyeur de sens. Mais on voit bien que quand on a des juifs paradoxaux qui se retrouvent dans des situations paradoxales, avec des gens qui s'affrontent au nom des nationalismes, on est ici dans l'incohérence la plus absolue. Donc moi, je crois que pour nous, c'est une occasion à la fois de faire un kiddush shem shamaim en se comportant avec chesed, avec bonté, avec générosité envers tous ces peuples, souhaiter le shalom, faire du chesed, soutenir l'Ukraine, hein, qui est victime d'une agression, de manière très claire. Mais d'un autre côté, c'est une occasion aussi pour nous de revenir vers nos sources, de revenir le Beit HaMidrash, de revenir vers la synagogue, de revenir vers nos sources, et de ne pas être ces juifs en exil paradoxaux dans des situations complètement folles. Voilà ce que je voulais dire par rapport à cette situation. Je pense que là, c'est quelque chose d'important. Et que quand on dit que le juif peut être une lumière pour les nations dans ce genre de situation, c'est par son chesed, c'est par sa bonté et par le fait qu'il va souhaiter le shalom. Mais d'un autre côté aussi, c'est une occasion aussi de comprendre où est notre place, ce qu'est notre place. D'ailleurs, ce débat a traversé, ici en Israël, je vais terminer avec ça, la place d'Israël par rapport dans ce conflit. Au départ, ça a été très hésitant parce qu'il y a eu des déclarations qui prétendaient ménager en quelque sorte les intérêts russes. Puis après, Israël s'est ouvertement rangé du côté de l'Amérique. Un peu comme si ce petit pays, qui doit tout aux États-Unis du point de vue militaire et économique, pouvait se permettre de jouer un jeu parmi les grandes puissances. Alors, c'est ça appartient à cette idéologie de Kochi Veotsem Yadi, c'est-à-dire la force de ma main, cette espèce d'orgueil militariste, politique, on est fort, on a une armée, on a des services secrets, on a un État, etc., alors qu'on est une poussière face à la Chine, face à la Russie, face à l'Amérique. Qui dit ça? C'est pas votre serviteur Mordechai Biton, c'est un général que j'ai entendu il y a deux jours, qui s'adressait à Avi Mimran, qui est l'animateur du journal de Radio Kol Hay, et qui lui dit, mais tous ces avions israéliens qui bombardent en Syrie, qui c'est qui leur donne le système de Nivout, le système de navigation, qui c'est qui sont les systèmes de... je perds mon français.
De navigation.
De navigation, etc., qui les vide et qui leur permet... Qui leur permet de faire tout ça? Donc il faut aussi que nous, les Juifs, on revienne aussi quand même à notre place, je veux dire. On a un État, une armée, des services secrets, mais on est une poussière face à ces empires. Alors qu'est-ce qui nous tient debout? C'est la tefila, c'est la prière, c'est notre Torah, c'est ce qui fait que depuis 3000 ans, comme l'a dit d'ailleurs Poutine au Rav Yitzhak Yosef, il lui a dit, moi je vais vous dire ce qui vous a fait tenir, il lui a dit dans un entretien, il lui a dit, ce sont les rabbins comme vous qui vont d'un endroit à l'autre et qui font que les gens étudient la Torah. Voilà ce que dit Poutine au Rav Yitzhak Yosef, et nous on aurait du mal à le comprendre. Donc il y a aussi cet orgueil militariste qui nous fait croire qu'on est une puissance internationale et qu'on peut dicter à la Russie et aux États-Unis ce qu'ils doivent faire. Il y a quelque chose d'un petit peu ridicule dans cette attitude. On attend du juif dans cette situation qu'il soit un pourvoyeur de shalom, un pourvoyeur de chesed, de bonté, mais aussi un pourvoyeur de sens. Et ça, il le fait très bien à partir du Beit HaMidrash, je pense. Et tous ces juifs paradoxaux, ben ce sont des juifs qui un jour sont aujourd'hui peut-être adulés et demain détestés et qui peuvent conduire à une détestation collective du juif. Alors que le juif, quand il est à sa place au Beit HaMidrash, ben même un type comme Poutine lui dit ben, « finalement, vous êtes éternel grâce à vos rabbins ». C'est une réflexion. Je pense que c'est une réflexion qu'il faut avoir dans cette crise-là.
Rav Mordechai Biton, merci pour cette position qui est la vôtre, qui vous appartient. Merci à vous. Et Shabbat Shalom. Bonsoir.
Shabbat Shalom.
Et nous sommes en ligne avec Maria Chadré. Bonsoir Maria Chadré.
Bonsoir, Shabbat Shalom.
Et Chodesh Tov. Et on en profite pour dire aussi Shavuot Tov pour ceux qui nous écoutent demain soir, le samedi soir. Mais oui, Shabbat Shalom et Chodesh Tov, puisque nous sommes Rosh Chodesh Adar. Et en plus, Adar Bet, les Juifs, ils ont quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'ils rajoutent un jour, un mois, de Adar pour respecter la lune. Enfin, vous nous expliquerez ça mieux que moi, évidemment. Mais ce qui est génial, c'est qu'ils ajoutent avant. C'est-à-dire que le vrai mois d'Adar, il est maintenant. Quand moi, j'ajoute, ça vient après, je mets un et après, je mets deux. Non, les Juifs ne sont pas comme ça. Ils ont ajouté le mois dernier. Et, enfin, c'est incompréhensible. Vous nous expliquerez ça un jour, Maria Chadré, vous qui, par ailleurs, avez une formation mathématique solide. Mais on va parler ce soir de joie, puisque nous sommes dans Pekoudé, c'est sûr. Mais Rosh Chodesh Adar, Mishenichnas Adar, Marbimbe, Maria Chadré, Simcha, on vous écoute. Et oui.
La joie du mois de Hadar, et pas que du mois d'Hadar, la joie de finir le livre de la Géoula. Vous l'avez dit, c'est Pekoudé, on termine le deuxième livre de la Torah. Chazak, chazak, venitrazek, comme on a l'habitude de le dire. Et on le termine sur une note majestueuse, magistrale, vraiment splendide. Alors, on a l'impression, à la lecture de Pekoudé, que c'est l'énumération, encore une fois, des ustensiles du tabernacle, du Mishkan. Mais cette fois-ci, on les énumère pour féliciter les Bnei Israël. Et je crois que si le travail spirituel de la semaine, là, de ce Shabbat, c'est tout voir avec ce regard merveilleux là, de Moshe, où il voit que tout a été fait merveilleusement, que Chol Asher Tziva Hashem, comme Dieu l'avait ordonné, il va féliciter, il va dire bravo. Et je crois que cette semaine, ce Shabbat, à nous de ne pas limiter nos compliments, de ne pas limiter le regard bienveilleux, ce qu'on appelle Aïn Tova, de voir autour de nous tout ce qu'il y a de bon, et il y a des bonnes choses, malgré la guerre, malgré l'inquiétude, et malgré tout, il y a, nous sommes là, le peuple d'Israël est là, Israël Chai, et la reine Esther, il y a 2400, 500 ans, nous a sauvés du décret du roi. Depuis, on a eu de 7. Nous sommes là sur Radio Shalom pour parler de ce merveilleux mois de la Simcha, du retournement de situation. Et en effet, à la fin de la parasha de Pekoudé, où le tabernacle est entièrement érigé, comme je le disais, Moshe nous félicite et Moshe nous bénit. Et je voudrais me permettre d'inviter la bénédiction de Moshe dans la parasha de la semaine, de l'inviter sur les ondes de Radio Shalom, et de préciser que bénissons-nous tous les uns les autres ce Shabbat de la bracha de Moshe. Alors elle est merveilleuse. Le texte de la Torah dit que quand Moshe voit que tout a été fait, vayevarech otam Moshe, Moshe les a bénis, et Rashi nous dévoile le secret de cette bracha. Qu'a-t-il dit à ce moment-là? Il a dit, yei ratson, que ce soit la volonté de Dieu, shetashre shrina bemaase yadechem, qu'il place de sa shrina, de son dévoilement à lui, à l'intérieur de l'œuvre de vos mains. Que la présence divine soit présente dans l'œuvre de vos mains. C'est-à-dire dans quelque chose d'extrêmement matériel, qu'il y ait du contenu, qu'il y ait du spirituel, qu'il y ait quelque chose qui impulse l'œuvre de vos mains. Je crois que c'est la plus belle bracha qui soit, celle-là, avec la bénédiction des Kohanim, bien sûr, de bénir quelqu'un que tout ce qu'il fait ne soit pas qu'une action sèche, vide, creuse, mais qu'elle soit impulsée par quelque chose de supérieur. Et donc, pour réussir à allier de cette façon, je dirais, le ciel et la terre, puisque c'est l'œuvre de vos mains, mais qui est liée, bien sûr, à une impulsion, donc au ciel, c'est toute l'idée du tabernacle, hein, ce trait d'union entre le haut et le bas, eh bien, nous avons, je crois, ici, le secret de la Simra de Hadar. Vous le disiez tout à l'heure, Bernard, quand arrive le mois d'Hadar, arrive le temps de la joie, et à chaque fois, on est un petit peu étonné de ce dicton, parce que finalement, tout a l'air comme s'il suffisait de décider d'être heureux pour être heureux. Est-ce que connaît-on dans la Torah, dans le judaïsme, le fameux bouton sur lequel il faut appuyer quand arrive le mois d'Hadar pour générer de la Simra? On a l'impression qu'au contraire, plus on la cherche, plus on cherche le bonheur, moins il est accessible. Y aurait-il une méthodologie juive? Alors, en fait, il semble, c'est Rav Volbe, dans son merveilleux livre du Aleshour, qui explique que pour atteindre la Simra, eh bien, il faut donc contrer ce qu'on appelle le Etsev, la tristesse. Or, la tristesse, quelle est sa nature? Eh bien, la tristesse provient de l'élément, parmi les quatre éléments fondamentaux du monde, l'élément, la terre. Vous savez que chacun des éléments à l'intérieur de nous va susciter une mida, le feu va susciter la colère, l'air va susciter des paroles futiles, l'eau, c'est un mouvement qui nous emporte, c'est le monde des pulsions. Et la terre, eh bien, c'est l'inertie, c'est la cessation de mouvement, c'est la paresse, c'est la tristesse aussi, bien sûr. Et donc, Rav Volbe cite le Arizal de façon extrêmement poétique, qui va dire que pour s'extraire de notre finitude, qui nous renvoie à de la tristesse et à un arrêt de mouvement, eh bien, il faut poétiquement s'imaginer comme étant porteur de deux ailes. Deux ailes, une à droite, une à gauche, qui vont nous faire décoller du sol, décoller de la terre et atteindre des hauteurs. Alors, bien sûr, ça nous fait penser à cette semaine, à l'érection du tabernacle, qui est ce trait d'union entre le ciel et la terre. Mais alors, comment fait-on? Alors, Rav Volbe explique que pour réussir à décoller, à remettre du mouvement dans notre vie, hein, c'est ça finalement la Simra, c'est agir, c'est changer, c'est transformer sa vie, c'est avoir des objectifs, de l'ambition, eh bien, ça provient d'un double mouvement. L'aile droite serait le mouvement expansif, généreux, de dons, d'épanchement. C'est ce mouvement en avant, d'accord? C'est tous les objectifs que l'on se donne, c'est vraiment un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Mais évidemment, nous sommes nombreux à imaginer que si on avait plus, si on avait davantage, si on pouvait être dans l'expansion, eh bien, tout irait bien pour nous si ma maison était plus grande, si mon enfant était comme ceci, si j'avais plus d'argent, si j'avais plus ceci, cela. Or, il n'en est rien. Et c'est là qu'intervient la deuxième aile, qui est, dit-il, l'aile de la ira, l'aile de la limite. En réalité, il s'agit d'avancer, d'être dans ce mouvement, mais dans un mouvement contenu à l'intérieur d'une frontière. On ne peut pas vivre la vie d'un autre et on ne peut pas non plus fantasmer être autre chose. Et donc, il y a un certain lien avec l'existant qui est important. Et ça, c'est repris d'ailleurs dans la paracha quand Moshe insiste sur tout ce que Dieu avait ordonné, de nombreuses fois, tout ce que Dieu a ordonné. On a souvent l'impression, quand on vit notre judaïsme, que c'est un épanchement, c'est une émotion, c'est un désir d'aller vers, oui, c'est vrai, d'un désir de plus, un désir d'éternité, d'infini, mais il ne peut fonctionner, ce désir d'infini, seulement s'il se trouve à l'intérieur de frontières très claires, s'il est délimité par ce qu'on appelle une halakha, c'est-à-dire que Dieu nous a donné des précisions. Quand il s'agit du tabernacle, il y a des mesures à respecter très précises. Alors on pourrait dire, mais qu'est-ce qu'il s'en fiche Dieu si la table fait tant de centimètres ou tant de mètres, etc., si les chérubins sont comme ci, comme ça? Pas du tout. Tout doit être fait avec une grande précision. Et cette précision est une condition sine qua non à la Simra. Quand on fait les choses comme il faut les faire, au sein de cette limite et de cette frontière, eh bien on a accès vers d'infinis contenus. Donc, ce n'est pas une expansion, je dirais, géographique ou une expansion de quantité, mais beaucoup plus une expansion dans la qualité, dans la profondeur. Et donc, eh bien, on comprend que finalement, agir selon la loi, selon la règle, alors bien sûr avec amour, mais aussi avec crainte, mais aussi en sachant poser des limites. C'est ce qui permet de grandir sereinement. C'est comme ça aussi qu'on éduque nos enfants, avec l'amour et avec de la rigueur, avec de la discipline. Cette discipline que l'on voit dans le Mishkan, eh bien, c'est la discipline qui, dans notre vie...
Bien, Maharsha, vous savez ce que dit le philosophe Hegel. Hegel dit « La liberté, c'est la conscience de ses limites. » Et en vous écoutant... C'est beau, hein ?
Ah, c'était exactement cette même
c'est
idée-là.
C'est exactement ça. La liberté, c'est la conscience de ses limites. Le même Hegel, d'ailleurs, qui a dit le plus beau passage de la Torah, de toute... Alors oui, il dit la Bible. De toute la Bible, c'est « Tu ne favoriseras pas le pauvre ». Mais je pensais aussi au concept de plénitude en vous écoutant. Je me disais, en fait, ce que décrit Maharsha, c'est quand les choses sont faites correctement, avec précision, c'est comme ça qu'on aboutit à la plénitude. Mais Hegel dit, la liberté, c'est la conscience de ses limites. Maharsha, je vous souhaite un beau Shabbat.
Magnifique, un Shabbat plein de joie. Pour conclure, un Shabbat plein de joie et un Shabbat plein de bracha en visualisant et en se remplissant de l'existant. Et on a beaucoup en nous. Et on peut avoir encore plus tout en se maintenant dans ses limites, comme vous venez de le dire. C'est toute l'idée, toute la magie du mouvement vers le haut.
Maria Chadré, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, Chodesh Tov.
Shalom leiboy naboy, Hashem lo yishmarihi, Shav shokat shoy bay, Hashem lo yirne bayis. Shalom leiboy naboy, Hashem lo yishmarihi, Shav shokat shoy bay.